Annie. Première partie, chapitre 9. En entendant 8 heures sonner à l'horloge de l'église, lorsqu'il arrivait aux premières maisons du village, l'idée lui vint de passer d'abord chez le notaire Rébénac. C'était un camarade de collège avec qui il causerait librement. Si Gaston avait fait un testament en faveur de son fils naturel, Rébénac devait le savoir et pouvait maintenant sans doute en faire connaître les dispositions. Le caractère de son frère, porté à la rancune, d'autre part l'affection et les soins qu'il avait toujours eus pour ce jeune homme, tout donnait à croire que ce testament existait. Mais enfin, ce n'était pas une illusion d'héritier de s'imaginer que, tout en instituant son fils son légataire universel, il avait pu, il avait dû, laisser quelque chose à Annie. En réalité, ce n'était point d'une fortune gagnée par son industrie personnelle et que son travail avait fait sienne que Gaston jouissait et dont il pouvait disposer librement, sans devoir compte de ses intentions à personne. C'était une fortune patrimoniale, acquise par héritage, sur laquelle, par conséquent, ses héritiers naturels avaient certains droits, sinon légaux, au moins moraux. Or, Gaston avait un héritier légitime, qui était son frère, et s'il pouvait déshériter ce frère, ainsi que la loi le lui permettait, les raisons ne manquaient pas pour appuyer sa volonté et même la justifier. Rancune, hostilité, persuasion que son legs, s'il en faisait un, serait gaspillé. Mais aucune de ces raisons n'existait pour Annie, qui ne lui avait rien fait, contre laquelle il n'avait pas de grief, et qui était sa nièce. Dans ces conditions, il semblait donc difficile d'imaginer qu'elle ne figurât pas sur ce testament pour une somme quelconque. Si minime que fût cette somme, ce serait la fortune. Et mieux que la fortune, le moyen d'échapper au mariage misérable auquel elle s'était résignée. 2 minutes après, il s'arrêtait devant les panonceaux rouillés qui, sur la place, servaient d'enseigne au notariat. Et, dans l'étude où il entrait, il trouvait un petit clerc en train de la balayer. « C'est à monsieur Rébénac que vous voulez parler ?» dit le gamin. « Oui, mon garçon. Je vais le chercher. » Presque aussitôt, le notaire arriva, mais au premier abord, il ne reconnut pas son ancien camarade. « Monsieur, il faut que je me nomme ?»«
Toi ?»«
Changé, paraît-il. » »« Comme tu n'as pas répondu à mes dépêches, je ne t'attendais plus, car je t'en ai envoyé 2 et je t'ai écrit. C'est parce que je venais que je ne t'ai pas répondu. Pouvais-tu penser que je laisserais disparaître mon pauvre Gaston sans un dernier adieu ?» « Tu es venu à pied depuis où ?» dit le notaire, sans répondre directement et en regardant la valise posée sur une chaise. « Une promenade. Les jambes sont toujours bonnes. Entrons dans mon cabinet. » Après l'avoir installé dans un vieux fauteuil en merisier, le notaire continua. « Comment vas-tu ? Et madame Barinck ? Et ta fille ? Merci pour elle. Nous allons bien. Mais parle-moi de Gaston. » Ta dépêche a été un coup de foudre. Sa mort en a été un pour nous. C'est, il y a 2 ans environ, que sa santé, jusque-là excellente, commença à se déranger. Mais sans qu'il résultât de ces dérangements, un état qui présenta rien de grave, au moins pour lui et pour nous. Il eut plusieurs anthraxes qui guérirent naturellement, et pour lesquels il n'appela même pas le médecin, car c'était son système de traiter, comme il le disait, les maladies par le mépris. Va-t-on s'inquiéter pour un clou? Cependant, il était moins solide, moins vigoureux, moins actif. Un effort le fatiguait. Il renonça à monter à cheval. Et, bientôt après, il renonça même à sortir en voiture, se contentant de courtes promenades, à pied, dans les jardins et dans le parc. En même temps, son caractère changea, tourna à la mélancolie et s'aigrit. Il devint difficile, inquiet, méfiant. J'appelle ton attention sur ce point, parce que nous aurons à y revenir. Un jour, il se plaignit d'une douleur violente dans la jambe et dut garder le lit. Il fallut bien appeler le médecin qui diagnostiqua un abcès interne, qu'on traita par des cataplasmes, tout simplement. L'abcès guérit et Gaston se releva. Mais il se rétablit mal. L'appétit était perdu, le sommeil envolé. Pourtant, peu à peu, le mieux se produisit, la santé parut revenir. Mais ce qui ne revint pas, ce fut l'égalité d'humeur. Avait-il des causes particulières de chagrin? Je le pense. Et même, j'en suis certain. Bien qu'il ne m'ait jamais fait de confidences entières, pas plus à moi qu'à personne d'ailleurs. Il m'honorait de sa confiance pour tout ce qui était à faire. Mais pour ses sentiments personnels, il a toujours été secret, et en ces derniers temps, plus que jamais. Il est vrai qu'un notaire n'est pas un confesseur. Mais nous reviendrons là-dessus. J'achève ce qui se rapporte à la santé et à la mort. Je t'ai dit que l'état général paraissait s'améliorer. Avec le printemps, il avait repris goût à la promenade, et chaque jour il sortait, ce qui donnait à espérer que bientôt il reprendrait sa vie d'autrefois. À son âge, cela n'avait rien d'invraisemblable. Les choses en étaient là lorsqu'avant-hier, Stanislas, le cocher, se précipite dans ce cabinet et m'annonce que son maître vient de se trouver mal, qu'il est décoloré, sans mouvement, sans parole, qu'on ne peut pas le faire revenir. Je cours au château, tout est inutile. Cependant, j'envoie chercher le médecin qui ne peut que constater la mort causée par une embolie. Un caillot, formé au moment de la poussée des anthrax ou de la formation des abcès de la jambe, a été entraîné dans la circulation et a obstrué une artère. La mort a été foudroyante? Absolument. Il s'établit un moment de silence et le notaire, ému lui-même par son récit, ne fit rien pour distraire la douleur de son ancien camarade qu'il voyait profonde. Enfin, il reprit. Je t'ai dit que Gaston s'était montré en ces dernières années triste et sombre. Je dois revenir là-dessus, car ce point est, pour toi, d'un intérêt capital. Mais, quel que soit mon désir de l'éclaircir, je ne le pourrai pas, attendu que, pour beaucoup de choses, j'en suis réduit à des hypothèses, et que tous les raisonnements du monde ne valent pas des faits. Or, les faits précis me manquent. Bien que, comme je te l'ai dit, Gaston ne m'ait jamais fait de franche confidence, les causes de son chagrin et de son inquiétude ne sont pas douteuses pour moi. Elles provenaient pour une part de votre rupture, pour une autre d'un doute qui a empoisonné sa vie. Un doute, celui qui portait sur la question de savoir s'il était ou n'était pas le père du capitaine Sixte. Comment ? Nous allons arriver au capitaine tout à l'heure. Vidons d'abord ce qui te regarde. Si tu as été affecté de la rupture avec ton frère, lui n'en a pas moins souffert, et peut-être même plus encore que toi, attendu que, tandis que tu étais passif, il était actif. Tu ne pouvais que supporter cette rupture. Lui pouvait la faire cesser, n'ayant qu'un mot à dire pour cela, et luttant par conséquent pour savoir s'il le dirait ou ne le dirait pas. J'ai été le témoin de ses luttes. Je puis t'affirmer qu'il en était très malheureux. Positivement, elles ont été le tourment de ces dernières années. Nous nous étions si tendrement aimés, et il t'aimait toujours. Comment ne s'est-il pas laissé toucher par mes lettres? C'est qu'à ce moment, il payait les intérêts de la somme dont il avait répondu pour toi, et que l'ennui de cette dépense le maintenait dans son état d'exaspération et son ressentiment. Et pour lui, cette dépense était cependant peu de chose. Il faut que tu saches, et je peux le dire maintenant, que précisément lorsque les échéances des intérêts de la garantie arrivèrent, Gaston venait de perdre une grosse somme dans un cercle à pot qu'il ne put payer qu'en empruntant. Cela embrouilla ses affaires. Il se trouva gêné. Il le fut bien plus encore quand, par suite du phylloxéra d'abord et du mildiou ensuite, le produit de ses vignes fut réduit à néant. Un autre à sa place eut sans doute essayé de combattre ses maladies. Lui ne le voulut pas. C'étaient des dépenses qu'il prétendait ne pas pouvoir entreprendre. « Et cela par ta faute, » disait-il. La vérité est qu'il ne croyait pas à l'efficacité des remèdes employés ailleurs, et que, par apathie, obstination, il laissait aller les choses. Et, en attendant que le hasard amenât un changement, il rejetait la responsabilité de son inertie sur ceux qui le condamnaient à se croiser les bras. C'est ainsi que toutes ces vignes sont perdues, et que celles qui n'ont point été arrachées, n'ayant reçu aucune façon depuis longtemps, sont devenues des touillas, où ne poussent que des mauvaises herbes et des broussailles. Vois-tu maintenant la situation, et comprends-tu la force de ces griefs? Oh, hélas! Comme, malgré tout, il ne pouvait pas, avec ses revenus, rester toujours dans la gêne. Il arriva un moment où les économies qu'il faisait quand même lui permirent de rembourser, et la somme qu'il avait garantie pour toi est celle qu'il avait empruntée pour payer sa dette de jeu. J'attendais ce moment avec une certaine confiance, espérant que, quand ton souvenir ne serait plus rappelé à ton frère par des échéances, un rapprochement se produirait. Comme il n'aurait plus de grief contre toi, votre vieille amitié renaîtrait. Et je crois encore qu'il en eût été ainsi si Gaston, isolé, n'avait pu trouver d'affection que de ton côté et du côté de ta fille. Mais alors, précisément, quelqu'un se plaça entre vous qui empêcha ce retour. Ce quelqu'un, c'est le capitaine Valentin Sixte. Je t'avais dit que j'arriverais à lui. Nous y sommes. Je t'écoute. Le capitaine est-il ou n'est-il pas le fils de ton frère? C'est la question que je me pose encore, bien que, pour tout le monde, à peu près, elle soit résolue dans le sens de l'affirmative. Mais, comme elle ne l'était pas pour Gaston, qui devait avoir cependant sur ce point des clartés qui nous manquent, et des raisons pour croire à sa paternité, tu me permettras de rester dans le doute. D'ailleurs, tu en sais peut-être autant que moi là-dessus, puisqu'à la naissance de l'enfant, tu étais dans les meilleurs termes avec ton frère. Il ne m'a rien dit alors de Mademoiselle Dufourcq, et plus tard, je n'en ai appris que ce que tout le monde disait. Deux ou trois fois, j'ai essayé d'en parler à Gaston, qui détourna la conversation, comme si elle lui était pénible. Elle l'était, en effet, pour lui, par cela même qu'elle le ramenait à un doute qui, jusqu'à sa mort, l'a tourmenté, et même, plus que tourmenté, angoissé, désespéré. C'est, il y a 31 ans, que Gaston fit la connaissance des demoiselles Dufourcq, qui demeuraient à 2 kilomètres environ de Peyrorade, au haut de la côte, à l'endroit où la route de Dax arrive sur le plateau. Là se trouvait autrefois une auberge tenue par le père et la mère Dufourcq. À la mort de leurs parents, les deux filles, qui étaient intelligentes et qui avaient reçu une certaine instruction, eurent le flair de comprendre le parti qu'elles pouvaient tirer de leur héritage en transformant l'auberge en une maison de location pour les malades qui voudraient jouir du climat de Pau en pleine campagne et non dans une ville. Tu connais l'endroit. Je me rappelle même la vieille auberge. Tu vois donc que la situation est excellente, avec une étendue de vue superbe. Ce fut ce qui attira les étrangers, et aussi la transformation que ces deux filles avisées firent subir à la vieille auberge, devenue par elles une maison confortable, avec bon mobilier, jardins agréables, cuisine excellente, et le reste. De l'une de ces filles, l'aînée Clotilde, il n'y a rien à dire. C'était une personne qui ne se faisait pas remarquer et ne s'occupait que de sa maison. De la jeune Léontine, il y a beaucoup à dire, au contraire. Jolie, coquette, mais jolie d'une beauté à faire sensation, et coquette à ne repousser aucun hommage. Ton frère l'a connue en allant voir un de ses amis établi chez les sœurs Dufourcq pour soigner sa femme poitrinaire, et il devint amoureux d'elle. Tu penses bien qu'une fille de ce caractère n'allait pas tenir à distance un homme tel que M. de Saint-Christo. Quelle gloire pour elle de le compter parmi ses soupirants! Ils s'aimèrent. Tous les deux jours, Gaston faisait 30 kilomètres pour aller prendre des nouvelles de la femme de son ami. Où cet amour pouvait-il aboutir? Léontine Dufourcq s'imagina-t-elle qu'elle pouvait devenir un jour la femme de M. de Saint-Christo? C'était bien gros pour une fille de sa condition. De son côté, Gaston, dominé par sa passion, promit-il le mariage pour l'emporter sur un jeune Anglais, fort riche et malade, qui, habitant la maison, proposait, dit-on, à Léontine de l'épouser. C'est ce que j'ignore, car je n'ai appris toute cette histoire que par bribes, un peu par celui-ci, un peu par celui-là, c'est-à-dire d'une façon contradictoire. Ce qu'il y a de certain, c'est que Léontine devint enceinte. Pourquoi, à ce moment, Gaston ne l'épousa-t-il pas? Probablement parce qu'il désespéra d'obtenir un consentement qu'il n'aurait même pas osé demander. Vois-tu la fureur de votre père en apprenant que son aîné voulait épouser la fille d'un aubergiste? Notre père n'aurait jamais donné son consentement. Il aurait plutôt rompu avec Gaston, malgré toute sa tendresse, toute sa faiblesse pour son aîné. On n'en vint pas à cette extrémité. Et si votre père connut la liaison de son fils avec Léontine, il ne crut certainement qu'à une amourette sans conséquence. D'ailleurs, avant que la grossesse fût apparente, Léontine quitta Peyrorade pour aller habiter Bordeaux, où elle se cacha. On dit dans le pays qu'elle était auprès d'une sœur aînée, mariée en Champagne. Chaque semaine, Gaston fit le voyage de Bordeaux. À Royan, on les rencontra ensemble. En même temps qu'elle quittait Peyrorade, le jeune Anglais, qui s'appelait Arthur Byrne, partait aussi. On a raconté qu'on les avait vus, lui et elle, à Bordeaux. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je l'ignore. Mais tout me paraît croyable avec une femme coquette comme celle-là. Si elle n'épousait pas Gaston, qu'elle devait, semblait-il, préférer, elle retrouverait son Anglais. Condamné à une mort prochaine, celui-là était aménagé. Chose extraordinaire, ce ne fut pas le malade qui mourut, ce fut la belle-fille, saine et forte. Un mois après l'accouchement, elle fut emportée tout d'un coup. L'enfant n'avait pas été reconnu par Gaston qui, sans doute, voulait le légitimer par mariage subséquent quand il le pourrait faire. La tante Clotilde le prit avec elle à Peyrorade et l'éleva comme son neveu en le disant fils de sa sœur aînée, la Champenoise. Des années s'écoulèrent, sur lesquelles je ne sais rien, si ce n'est que Gaston allait voir l'enfant quelquefois chez sa tante, et que, quand le moment arriva de le mettre au collège à Pau, il paya sa pension. Il se montra élève appliqué, studieux, intelligent, et il entra à Saint-Cyr dans les bons numéros. Ce fut en costume de Saint-Cyrien que, pour la première fois, il vint au château, où il passa une partie de ses vacances à pêcher, à chasser, à galoper. Pour ceux qui n'avaient pas oublié les amours avec Léontine, ce séjour fut le commencement de la reconnaissance du fils par le père. Car pour tout le monde, Valentin était bien le fils de Gaston. Personne ne doutait de cette paternité. Et moi-même, qui jusque-là m'étais tenu sur la réserve, avais-tu des raisons pour la justifier? Pas d'autre que celle qui résultait de la non-reconnaissance par Gaston. mais pour moi, celle-là était d'un grand poids, car, avec un homme du caractère de ton frère, il me paraissait impossible d'admettre que, croyant ce garçon son fils, il ne lui donna pas son nom. S'il ne le faisait pas, c'est qu'il en était empêché, et comme il ne dépendait plus de personne, ce ne pouvait être que par un doute basé sur les relations qui avaient existé entre Léontine et Arthur Byrne. Quelles avaient été au juste ces relations? Innocentes ou coupables? Bien malin qui pouvait le dire après 20 ans, alors que l'un et l'autre avaient emporté leur secret. En tout cas, Gaston n'osait pas se prononcer puisqu'il ne reconnaissait pas ce fils, à ses yeux douteux. S'intéresser, s'attacher à lui, cela il le pouvait, et le jeune homme, je dois le dire, justifiait cet intérêt. Mais le reconnaître, lui donner son nom, en faire l'héritier, le continuateur des saints cristaux, cela, il ne l'osait pas. J'ai vu ses scrupules, ou plutôt, je les ai devinés. J'ai assisté à ses luttes de conscience, alors qu'il était partagé entre deux devoirs également puissants sur lui. D'une part, celui qu'il croyait avoir envers ce jeune homme, d'autre part, celui qui le liait à son nom, et je t'assure qu'elles ont été vives. N'a-t-il pas fait des recherches, une enquête? Après 20 ans, sur un pareil sujet, il est certain cependant qu'il a dû recueillir tous les renseignements qui pouvaient l'éclairer. Mais il est certain aussi qu'ils n'ont pas été assez probants, puisque la reconnaissance n'a pas eu lieu. Les choses continuèrent ainsi sans que ma femme et moi nous osions décider qu'elles se feraient ou ne se feraient pas, penchant tantôt pour la négative, tantôt pour l'affirmative. Valentin, en quittant Saint-Cyr, devint officier de dragons et entra plus tard à l'école de guerre, d'où il sortit le 3e. Gaston, fier de lui, avait son nom sans cesse sur les lèvres. Et toutes les fois que Valentin obtenait un congé, il venait le passer au château. Un père n'eût pas été plus tendre pour son fils, un fils plus affectueux pour son père. Cependant, ce fut à ce moment même que j'acquis la certitude que jamais Gaston ne le reconnaîtrait. Et voici comment elle se forma dans mon esprit. Tu me trouves sans doute bien décousu, bien incohérent. Je te trouve d'une lucidité parfaite. Alors je continue. Un jour, Gaston me chargea de lui dresser un modèle de testament qu'il copierait. Si réservé que je dusse être, avec un client défiant, qui avait toujours peur qu'on l'amenât à dire ce qu'il voulait tenir secret, je fus cependant obligé de lui adresser quelques questions. Il me répondit évasivement, en se tenant dans des généralités, si bien qu'au lieu d'un seul modèle, je lui en fis 4 ou 5, répondant aux divers cas qui, me semblait-il, pouvaient se présenter pour lui. 4 jours après, il m'apporta son testament dans une enveloppe scellée de 5 cachets et me demanda de le garder. Alors, il a fait un testament? Il en a fait un à ce moment. Mais, il y a 1 mois, il me l'a repris pour le modifier, peut-être même pour le détruire. Et je ne sais pas s'il en a fait un autre. Ce qu'il y a de certain, c'est que je ne suis dépositaire d'aucun. De sorte qu'aujourd'hui, tu es le seul héritier légitime de ton frère. Ce qui ne veut pas dire, tu dois le comprendre, que tu recueilleras cet héritage. Oui, je comprends qu'on peut trouver un testament dans les papiers de Gaston. Parfaitement. Cela dit, je remonte à la conviction qui s'est établie en moi que Gaston ne reconnaîtrait pas le capitaine le jour même où il m'a demandé un modèle de testament. Et cette conviction est, il me semble, basée sur la logique. Tu sais, n'est-ce pas, que l'enfant naturel reconnu n'a pas sur les biens de son père les mêmes droits que l'enfant légitime. Dans l'espèce, le capitaine, fils légitime de Gaston, hérite de la totalité de la fortune de son père. Fils naturel reconnu, il n'hérite que de la moitié de cette fortune, puisque ce père laisse un frère, qui est toi. Pour qu'il recueille cette fortune entière, il faut qu'elle lui soit léguée par testament. Et ce testament n'est possible en sa faveur que s'il est un étranger et non un enfant naturel reconnu. Je ne savais pas cela du tout. N'en sois pas surpris. Quand la loi s'occupe des enfants naturels, adultérins ou incestueux, elle est pleine d'obscurité, de lacunes, de trous ou de traquenards, au milieu desquels ceux dont c'est le métier d'interpréter le code ont souvent bien du mal à se débrouiller. Donc, selon moi, ton frère, faisant son testament, renonçait à reconnaître le capitaine pour son fils. Et la conclusion de ton raisonnement était que le désir de laisser toute sa fortune au capitaine le guidait? En effet, la logique conduisait à cette conclusion. Soupçonnes-tu les raisons pour lesquelles il t'a repris son testament? Elles sont de plusieurs sortes, mais les unes comme les autres ne reposent que sur des hypothèses. Puisque tu les as examinées, trouves-tu quelque inconvénient à me les dire? Nullement. Tu admets, n'est-ce pas, qu'elles nous intéressent assez pour que je te les demande? Je crois bien. Depuis longtemps, j'étais habitué à l'idée que Gaston laisserait sa fortune au capitaine, mais ce que tu viens de m'apprendre me montre que les choses ne sont pas telles que je les imaginais, notamment pour la paternité que je croyais certaine. Les conditions sont donc changées. Après avoir été trop loin dans un sens, ne va pas trop vite maintenant dans un sens opposé. Oh, je n'irai que jusqu'où tu me diras d'aller. La vie m'a été trop dure pour que je me laisse emballer. Et je puis t'affirmer, avec une entière sincérité, qu'en ce moment même, je suis plus profondément ému par le chagrin que me cause la mort de Gaston, que je ne suis troublé par la pensée de son héritage. Certainement, je ne suis pas indifférent à cet héritage sur lequel j'ai bien quelques droits, quand ce ne serait que ceux auxquels j'ai renoncé. Mais enfin, je suis frère beaucoup plus qu'héritier. Fais-moi l'honneur de le croire. Et c'est justement sur ces droits dont tu parles que repose une des hypothèses qui soit présentée quand je me suis demandé pourquoi Gaston me reprenait son testament. Je puis te dire que depuis votre rupture, je ne suis pas resté sans parler de toi avec ton frère. Dans les premières années, cela a été difficile. Je t'ai expliqué pourquoi. Colère encore vivante, rancune exaspérée par les embarras d'argent, échéance des sommes à payer. Mais quand tout a été payé, quand le souvenir des embarras d'argent s'est effacé, ton nom n'a plus produit le même effet d'exaspération. J'ai pu le prononcer, ainsi que celui de ta fille, et représenter incidemment, sans appuyer, bien entendu, qu'il serait fâcheux qu'elle ne pût pas se marier, uniquement parce qu'elle n'avait pas de dot. Tu as agi en ami, et je t'en remercie de tout cœur. En honnête homme, en honnête notaire qui doit éclairer ses clients, même lorsqu'ils ne lui demandent pas, et les guider dans la bonne voie vers le vrai et le juste. Or, pour moi, la justice voulait que vous ne fussiez pas entièrement frustré d'un héritage sur lequel vous aviez des droits incontestables. Est-ce pour modifier son testament dans ce sens que Gaston me l'a repris? Cela est possible. Évidemment. Sans doute. Et j'aime d'autant plus à m'arrêter à cette hypothèse qu'elle est consolante et que sa réalisation serait honorable pour la mémoire de ton frère, en même temps qu'elle vous serait favorable. Mais il faut bien se dire qu'elle n'est pas la seule. Si ton frère a voulu modifier son testament qui, sous sa première forme, n'était pas en ta faveur, je le crains, et y ajouter de nouvelles dispositions pour te donner à toi ou à ta fille ce qu'il vous devait, il peut aussi l'avoir modifié dans un sens tout opposé, comme il peut aussi l'avoir tout simplement supprimé. Y a-t-il dans ses relations avec le capitaine, quelque chose qui te puisse faire croire à cette suppression ? Rien du tout. Et même, je dois dire que ses relations sont devenues plus suivies qu'elles n'étaient quand Sixte, passé capitaine, a été nommé officier d'ordonnance du général Araka, qui commande à Bayonne, ce qui lui a permis de venir à Ourthaud très souvent. J'ajoute encore que ce choix a été inspiré par Gaston, qui était l'ami du général. Alors, cette hypothèse de la suppression du testament est peu vraisemblable. Sans doute, mais cela ne veut pas dire qu'il faille l'écarter radicalement. Je t'ai expliqué que Gaston avait toujours eu des doutes sur sa paternité, ce qui fait que, dans ses rapports avec l'enfant de Léontine Dufourcq, il a varié entre l'affection et la répulsion. En certains moments, plein de tendresse pour son fils, dans d'autres, ne regardant qu'avec horreur ce fils d'Arthur Byrne. Qui sait si le jour où il m'a redemandé le testament, il n'était pas dans un de ces moments d'horreur. Une disposition morale peut aussi bien avoir provoqué cette horreur qu'une découverte décisive par témoignage, lettre ou toute autre information à laquelle il aurait ajouté foi. Mais ses relations avec le capitaine ne permettent pas cette supposition, me semble-t-il. Le capitaine n'est pas venu au château depuis que Gaston m'a redemandé son testament. Et ce jour-là, pendant les quelques minutes que ton frère est resté dans ce cabinet d'où il semblait pressé de sortir, je l'ai trouvé très troublé. Tu vois donc qu'il faut admettre cette supposition, si peu sérieuse qu'elle puisse paraître, comme il faut admettre tout, même que le capitaine va nous arriver avec un bon testament en poche. J'admets cela très bien. En tout cas, nous serons bientôt fixés. Pour plus de sûreté, j'ai fait, à ta requête, apposer les scellés. Nous les lèverons dans 3 jours, et alors nous trouverons le testament s'il y en a un. En attendant, en ta qualité de plus proche parent, tu vas être le maître dans ce château. C'est en ton nom que j'ai tout ordonné, depuis le service à l'église jusqu'au dîner commandé pour recevoir convenablement ceux des invités qui, venant de loin, n'auraient rien trouvé à Ourthaud, particulièrement vos parents d'Orthez, de Mauléon et de Saint-Palais, qui, certainement, vont arriver d'un moment à l'autre. Oh, laisse-moi te remercier encore une fois. Tu as agi dans ces tristes circonstances comme un parent, ou simplement comme un notaire. Il n'y en a plus de ces notaires. Aux environs de Paris, on dit cela, peut-être, mais je t'assure que chez nous, ils s'en trouvent qui sont les amis de leurs clients. Puisque ce mot est dit, veux-tu me permettre d'en ajouter un autre ? Il parut embarrassé. « Parle donc. » « Le voilà, » dit-il en ouvrant un des tiroirs de son bureau. « C'est que, si pour tenir ton rang, tu avais besoin d'une certaine somme, je suis à ta disposition. »« Oh, je te remercie. » »« Ne te gêne pas. Cela peut être facilement imputé au compte de la succession. » « Je suis touché de ta proposition, mon cher Rébénac, mais j'espère n'avoir pas à te mettre à contribution. En tout cas, tu ne refuseras pas de prendre une tasse de café au lait avec moi. Après une nuit passée en chemin de fer, tu es venu à pied depuis Puyot, pense que la cérémonie se prolongera tard. » La tasse de café acceptée, le notaire voulut que le petit clerc portât la valise de son ancien camarade. « Si je ne t'accompagne pas, » dit-il, c'est que je pense que je serai importun. L'expérience m'a appris malheureusement qu'à vouloir distraire notre chagrin, le plus souvent, on l'exaspère. À bientôt.